Alors bonjour tout le monde, les ambassadeurs égalité du Collège Suzanne Lacor accueillent aujourd'hui des membres de l'association Shams. Bonjour Ryan, bonjour Elias, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement?
Bonjour, moi c'est Ryan, au sein de l'association Shams France, je suis responsable pôle éducation. Donc en fait, j'organise avec la Ligue de l'enseignement, le projet Safe and Proud, donc le Collège Suzanne Lacor est partenaire. Et j'organise aussi plein d'autres événements qu'on détaillera plus en détail.
Bonjour, moi c'est Elias, du coup je suis bénévole avec Shams depuis un an. Voilà, j'ai 27 ans et j'ai participé aux ateliers de sensibilisation qui ont eu lieu dans ce collège.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association Shams et de son rôle?
L'association Shams France est née en 2016 dans les locaux d'Amnesty International. Amnesty International, c'est une association de défense des droits de l'homme. Et donc pourquoi Shams France? Parce qu'on vient en aide aux populations issues des régions MENA, Middle East, North Africa, Maghreb, Moyen-Orient, et en particulier pour les gens qui, en raison de leurs conditions de LGBT, subissent là-bas des persécutions et ont besoin d'un refuge ou de demande d'asile. La demande d'asile, en fait, c'est des conventions. C'est lorsque dans le pays où on est persécuté en raison de sa foi, de sa orientation sexuelle, de son orientation politique ou autre, et qu'on est menacé, on peut demander l'asile dans des membres qui ont signé cette convention, et la France en fait partie. Donc nous, on s'occupe des personnes qui sont issues des régions MENA, mais pas que, qui sont persécutées en raison de leur orientation sexuelle et qui souhaitent demander un asile ou un refuge en France.
Pourquoi les personnes LGBT que vous accueillez dans l'association Shams ont dû quitter leur pays?
Alors, on accueille des personnes LGBT qui ont dû quitter leur pays dans l'association Shams pour une raison très simple, c'est que ces gens-là, quand ils quittent leur pays, c'est parce que s'ils restent, ils courent un grand danger. Là, on parle de dangers liés à la vie, c'est-à-dire les gens peuvent perdre leur vie, ils peuvent être discriminés dans le sens où ils peuvent ne pas avoir un accès au travail, aux études, ou à une vie sociale normale, et puis surtout, ils peuvent pas simplement aimer des gens qui pourraient aimer, par exemple, un homme dans un pays comme l'Algérie ou comme le Maroc, ou d'autres pays d'ailleurs, d'Afrique de l'Ouest, ou alors du MENA, donc du Moyen-Orient. Peut se retrouver simplement à aller en prison, risquer la mort, s'il aime un homme comme lui. Donc nous, on les accueille parce que ces personnes-là, quand elles quittent leur pays, en général, ça peut être dans la précipitation, donc c'est pas avec un plan clair, c'est pas avec des moyens financiers déjà prêts, ça va être une fuite simplement, et ils vont avoir besoin d'aide pour être logés, pour être nourris, pour savoir quoi faire, et comme l'a dit Ryan, pour avoir l'accès au droit à l'asile et du coup en fait avoir une situation régulière ici en France et pouvoir continuer leur vie tout simplement en sécurité.
Et en France, est-ce que vous pensez que les LGBT sont en danger?
Ben écoutez, il y a toujours des personnes qui meurent, il y a toujours des personnes qui sont agressées, mais la différence entre la France et les autres pays, c'est qu'en France, la législation a changé. C'est ça la différence. Mais par contre, la violence et les agressions, celles-ci sont toujours présentes. C'est juste que maintenant, elles sont punies par la loi et maintenant, devant les tribunaux, on a gain de cause. Mais ce n'est pas parce qu'une loi existe que le problème disparaît.
Est-ce que les LGBT connaissent des problèmes d'intégration ou de discrimination?
Oui, les LGBT connaissent des problèmes d'intégration ou de discrimination, je dirais même, et de discrimination. Donc les problèmes d'intégration, si on reste sur des LGBT qui viennent de pays étrangers, en fait, ça va être compliqué pour eux de s'intégrer dans la société française parce qu'ils viennent d'un autre pays, parce que des fois, ils ont vécu des traumatismes, donc des choses qui ont pu leur faire peur, qui peuvent les rendre anxieux ou d'autres choses comme ça. Et la discrimination, elle est liée directement au fait qu'ils sont LGBT, c'est-à-dire, comme on a pu le voir pendant les ateliers, une personne LGBT, par exemple, risque 10 fois plus qu'une personne lambda de se faire agresser ou de se faire harceler. Donc c'est ça les problèmes que les personnes LGBT peuvent rencontrer plus fréquemment que d'autres en tant que minorité. Ici en France, effectivement, comme l'a dit Ryan, la législation fait que les LGBT-phobies sont interdites par la loi à différents niveaux. Mais ça reste quand même commun de vivre ça.
L'association accompagne aussi des personnes nées en France. Pourquoi?
Parce que les problématiques, qu'on soit né en France ou qu'on soit né ailleurs, c'est les mêmes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, qu'on ait un lien avec les régions MENA, Middle East, North Africa ou autres, ou même l'Afrique subsaharienne, il y a toujours le même terreau, j'ai envie de dire, le point commun, c'est la culture ou l'appartenance religieuse ou culturelle. Et souvent, en fait, c'est une lecture, quelquefois rigoriste, quelquefois, j'ose le mot intégriste, qui empêche les gens de vivre. Et ça, ça ne touche pas que les LGBT, ça peut toucher aussi les femmes, quelquefois, aussi les personnes qui sont un peu différentes ou autres. Donc ça dépend des différentes grilles de lecture, et c'est pour ça que ben, ce problème-là, il est un peu, il n'appartient pas qu'à la France, et il n'appartient pas aussi qu'à ces régions-là. C'est un problème global, et il faut y répondre de manière globale, sans faire de distinction entre ici et là-bas.
Il y a deux semaines, lors de la projection du film Close au 4e du collège, beaucoup d'élèves ont eu des propos homophobes. Certains élèves ont pris la parole contre ces comportements, mais on voit que les mentalités sont dures à changer. Comment peut-on faire à notre niveau pour être des alliés de la cause LGBT?
Bah en fait, il y a des choses très simples, facile même je dirais, c'est d'accueillir les gens un peu tels qu'ils sont, parce que... Bah en fait, c'est ce qu'on apprend un peu avec la vie, c'est que les gens, de toute façon, on est tous différents. On est un peu pareil, mais on peut être très différents. Et puis, bah, on peut accueillir quand quelqu'un, voilà, dira plus tard d'ailleurs, en grandissant, quand il saura qu'il est gay, ou il se rendra compte qu'il est lesbienne. Ou... C'est toujours très agréable et très vital d'avoir quelqu'un qui va nous soutenir, donc qui va juste accepter tel que nous sommes. Donc peut-être éviter d'insulter, éviter de faire du mal, éviter de tomber dans des LGBT-phobies. Et tout simplement accueillir la personne. Et puis après, comme on a pu voir dans les ateliers, on a des LGBT-phobies qui peuvent être directes ou indirectes. Les directs, ça peut être l'agression, des choses comme ça. Donc ça dépend de la personne, on peut éviter de faire ça. On va en avoir aussi des indirects, c'est-à-dire par exemple du harcèlement de groupe ou des rumeurs, de la diffamation. Et ça, en soi, bah, si on veut être allié un peu de ces personnes-là, LGBT, c'est ne pas rentrer dans le piège de faire du mal aux autres. Sachant que l'idée vient rarement en fait de la majorité, ça va venir d'une ou deux personnes, donc ne pas rentrer dans ce piège-là, et puis simplement être gentil, respectueux avec les gens, voilà.
Merci beaucoup pour ces conseils. Maintenant, si vous êtes d'accord, on aimerait vous poser des questions sur vos parcours personnels.
Où êtes-vous né?
Alors, moi je suis né à Béjaïa en Algérie. C'est ce qu'on appelle la petite Kabylie. C'est une région qui est sur la Méditerranée, au nord, milieu de l'Algérie.
Moi, je suis né à Courcouronnes, dans le 91.
Quelle est la situation pour les LGBT dans ce pays?
Alors, en Algérie, les LGBT... Bah, déjà, il faut savoir que, ici, par exemple, en France, l'LGBT-phobie, elle est punie par la loi. En Algérie, c'est le fait d'être LGBT qui est puni par la loi. La situation, elle est assez mauvaise, parce que, légalement, on n'a pas le droit d'être gay, par exemple, tel que je suis. Et puis surtout, bah, la loi, elle punit avec de la prison et de l'argent. Au-delà de ça, en fait, quand on est gay en Algérie, bah, en fait, c'est compliqué de le dire à sa famille, c'est compliqué de le dire à ses amis, c'est compliqué d'avoir un petit copain. En fait, c'est compliqué de vivre tout simplement. Il faut se cacher. Donc, je dirais, la situation, elle est très mauvaise.
Ensuite, bah, moi, mon pays, c'est la France. Donc, moi, là, je suis assez vieux maintenant. Bientôt 40 ans, et j'ai vu la situation évoluer par rapport à quand j'étais ado et quand, par rapport à maintenant, c'est le jour et la nuit. C'est pour ça qu'on a l'impression que la France a toujours été LGBT friendly. Non, c'était pas le cas avant, et c'est juste récent. Et donc, ce sont des droits acquis récemment. Donc, la situation, pour l'instant, ça va, mais ça n'a pas toujours été le cas, et ça semble fragile en France.
Comment avez-vous su que vous étiez gay, et à quel âge?
Alors, moi, j'ai su que j'étais gay, je pense, j'avais 13, 14 ans, un truc comme ça. Enfin, genre, avant ça, je me posais pas trop la question. J'étais un enfant, donc voilà, je jouais, je m'amusais, je faisais mon école. J'avais pas trop ça dans la tête. Et puis, à partir de 13 ans, 14 ans, voilà, j'ai commencé à sentir que j'aimais bien les garçons, c'est-à-dire qu'il y avait un garçon que j'aimais bien. Voilà. J'aimais pas juste comme un ami, j'avais déjà des amis à cet âge-là, mais je l'aimais d'une autre façon. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais gay. Voilà, j'avais pas forcément le mot gay en tête parce que bah, j'avais pas rencontré ce mot-là dans ma vie de tous les jours ni à l'école, mais je savais en tout cas que j'aimais les garçons.
Ensuite, bah moi, me concernant la cage, moi j'ai l'impression que ça a toujours été le cas. Après, moi, la question de l'attirance sexuelle, c'est un peu tabou dans ma famille. J'étais élevé dans une famille très stricte, donc on se posait pas ce genre de questions. C'était l'école, la maison, l'école. Il fallait être un bon élève et être parfait. Et la question de l'attirance sexuelle s'est posée beaucoup plus tard. Mais quand elle s'est posée, j'ai vu qu'elle n'était pas hétérosexuelle, donc j'ai préféré l'éteindre et ne pas y faire attention et me concentrer sur les études, tel qu'on m'avait dit. On m'a dit, bah écoute, si t'es pas hétéro, t'es rien.
Comment vous vous êtes senti dans votre peau quand vous avez compris votre orientation sexuelle?
Alors, je me suis senti mal, hein, tout simplement. Au début, pas trop, parce que j'avais pas beaucoup réfléchi à ce que ça impliquait. Je savais qu'il fallait pas que je le dise. Mais après, quand je comprenais un peu que j'aimais des garçons, j'étais différent, je me suis senti mal. Par exemple, je me rappelle que je voulais absolument pas que mes amis le sachent déjà. Et puis, moi j'ai grandi dans une famille très religieuse, donc moi-même j'étais très religieux. Donc automatiquement, quand j'y réfléchissais, je me disais, ouais, pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je peux changer? Après, je me rendais compte que non, donc ça m'a fait beaucoup de mal. C'était un mal que je vivais entre moi et moi-même. Je pense que c'est ça le pire, en fait. C'est que je me sentais mal. C'était pas quelqu'un d'autre qui me faisait du mal, mais c'était moi envers moi-même. Simplement parce que dans ma tête, à ce moment-là, je pensais que ce que je faisais était très mal. Et je voyais aucune autre solution, à part être qui j'étais. C'était le plus simple. En tout cas, j'ai essayé de changer, hein, mais voilà, j'ai pas trop réussi. Et puis au final, ça me convient d'être qui je suis.
Ensuite, en me concernant, pour moi, dans ma famille, que ce soit hétérosexuel ou homosexuel, la sexualité était mal. Donc, quand je laissais exprimer ma sexualité, je savais que c'était mal, quelle qu'elle soit. Ensuite, moi, dans ma peau, tant que c'était caché, que personne ne savait, j'arrivais un petit peu à vivre. Mais une fois que ça a été révélé, là, c'était plus compliqué. En fait, il fallait absolument assumer. Tant que c'était caché, ça allait, mais il fallait assumer une fois que c'était révélé.
Quand vous avez compris votre homosexualité, est-ce que vous avez essayé de vous convaincre que vous étiez hétérosexuel pour échapper aux rumeurs?
Oui, du coup, j'ai essayé de m'en convaincre. J'ai par exemple le souvenir, j'étais à un an de rentrée au lycée. Je me rappelle, j'avais mon meilleur ami à ce moment-là, il m'a dit « Ouais, toi, t'es qui ?» J'étais surpris, je me suis dit « Ah ouais ?» Et du coup, j'ai commencé à me bagarrer avec lui parce que je voulais pas qu'il le sache, je voulais pas que mes autres camarades le sachent. Moi déjà même, je voulais pas le savoir. Donc, carrément. J'ai essayé de me convaincre que j'étais hétéro alors que j'étais bisexuel. Même en fait, j'essayais juste de tirer un truc qui me paraîtrait être vu normal par ma famille ou par ma société. Donc les gens qui m'entouraient, que ce soit à l'école, que ce soit à ma grande famille, que ce soit juste simplement des gens dans la rue.
Ensuite, sincèrement, je me rappelle pas avoir eu un moment dans ma vie, un autre sentiment. Des sentiments hétérosexuels, je m'en rappelle pas. Ensuite, pour échapper aux rumeurs, moi, c'était d'être entre guillemets, l'élève, l'enfant parfait, c'est-à-dire être bon à l'école, rentrer à la maison, pas de problème, rentrer tôt et voilà quoi. C'était ça, moi, qui était fait pour échapper aux rumeurs. Faut qu'il y ait aucune rumeur, ni en bien ni en mal. Faut qu'on dise rien. C'était comme ça, c'est dans la famille. Faut pas qu'on parle de nous, on doit rester calme et voilà. Et donc, dès que je sentais que quelque part, ça devenait un peu tendu ou je voyais des regards, je disparaissais, soit je sortais plus, soit je sortais ailleurs. Mais c'était comme ça. Moi, j'étais élevé dans cette manière-là.
Avez-vous déjà été harcelé ou subi des agressions à cause de votre orientation sexuelle?
Ouais, quelque part, ouais. En fait, si je me rappelle, ouais, j'ai déjà subi ça, déjà plus jeune. Parce que avec le recul, je me rends compte qu'il y avait une partie qui était liée à ça. Ça pouvait être à la classe, ça pouvait être à l'école. Et puis en tant qu'adulte, quand je suis arrivé en France, c'est déjà arrivé que je marche avec un copain dans la rue, main dans la main, et qu'il y ait des gens qui me cherchent des embrouilles, donc qui commencent à nous provoquer, ou à nous insulter, ou à faire un peu les mecs. Mais bon, je me suis jamais laissé faire. En tant qu'adulte, quand j'étais plus jeune, c'était un peu plus compliqué à vivre.
Moi, concernant, en fait, comme je vous ai dit, moi j'ai grandi où il n'y avait pas de rumeurs, donc on ne disait jamais rien sur moi. Et après, vu que j'étais un garçon, donc il fallait se battre, donc s'il fallait se battre, je me battais. Mais bizarrement, là où j'ai ressenti de l'homophobie, c'était dans le monde du travail. C'était dans moi, là où j'ai ressenti, c'est quand une fois que j'ai fait mes études et autres, et que là, on est censé être un petit peu, entre guillemets, libre, une fois qu'on a fait tous les sacrifices pour faire les études, les diplômes et tout ça, et qu'après on a un bon travail et qu'on peut vivre, et ben, c'était à ce moment-là où moi, j'ai subi les discriminations, qu'elles soient liées à mon origine sociale, parce que je viens de banlieue, ou parce que je suis gay, ou parce que je suis musulman. C'était plus dans le monde du travail que moi, j'ai subi tout ça.
Est-ce que vous avez fait votre coming out à vos parents? Ou à vos amis, comment est-ce qu'ils ont réagi?
Les parents, je leur ai fait mon coming out il y a quelques années, donc il y a 4-5 ans, mais bon, c'était quelque chose qu'ils savaient déjà que j'étais gay, parce que mes parents, ils se sont rendus compte de ça. Au bout d'un moment, on en avait parlé avec mon père, enfin, c'était pas vraiment parlé, mais puis je fais la leçon, il m'a dit de ne pas être tel que j'étais, et puis on a oublié ça, on en a pu reparler, et puis quand j'avais 23 ans, donc il y a 4 ans, je leur ai annoncé que j'étais gay à nouveau, je voulais en parler comme un adulte. bah, ils ont arrêté de me parler pendant 2 ans. Donc voilà, ils n'ont pas voulu en parler. Et pour mes amis, bah, j'avais partagé ça avec mes meilleurs amis. J'avais 19 ans, quelque chose comme ça. Et franchement, ils ont tous très bien réagi. C'est-à-dire qu'ils m'ont accepté tel que j'étais. Ça n'a rien changé à notre relation. Simplement, bah, je pouvais leur en parler bah, quand j'étais en couple avec quelqu'un. Quand j'étais en couple avec un homme, je pouvais leur dire. J'avais pas peur. Et puis voilà, c'était normal. Ils pouvaient rencontrer mon copain. Il n'y avait aucun souci. Pour les parents, c'était plus compliqué. Du coup, ouais, on a arrêté de parler pendant 2 ans. Et puis ensuite, on a repris... on a recommencé à parler, mais on parlait plus de ce sujet-là. Ce qui fait que nos relations, maintenant, sont très, très limitées.
Moi, j'ai subi un outing forcé de la part de ma sœur qui avait mis un logiciel espion sur l'ordinateur de la famille. Donc moi, j'avais réussi, elle connaissait tous les trucs astuces pour effacer l'historique et tout ça, mais elle avait mis un logiciel espion. Et elle avait annoncé ça à mes frères et sœurs quand j'avais 18 ans, pendant que mes parents étaient en voyage à la Mecque. Donc j'ai pas trop choisi, et c'est comme ça que ça s'est passé, pour moi.
Quand avez-vous décidé de venir en France ?
Moi, j'ai décidé de venir en France à mes 19 ans. Donc j'avais eu mon bac, j'étais à l'université, j'avais fait un an, j'avais déjà validé ma première année en électronique. Et voilà, j'avais ma meilleure amie à cette époque-là, elle était super hypée pour venir en France, elle avait trop envie. Moi aussi, je me suis dit, allons-y, j'avais de bons résultats à l'école, j'avais un petit travail à côté, je faisais mes petites économies, et puis je savais profondément que je ne pouvais pas rester en Algérie. Parce que comme j'ai dit plus haut dans la conversation, voilà, l'Algérie, quand on est LGBT, on ne peut pas bien vivre. Et moi, je ne voulais pas cette vie-là. Je voulais vivre libre, je voulais m'assumer, être tranquille, et ne pas avoir peur de mon ombre partout où je vais.
Comment s'est passée votre arrivée ?
Alors, mon arrivée... elle s'est passée. D'un côté, d'un côté, ça s'est bien passé parce que je suis arrivé, j'étais étudiant, donc j'ai pu aller à l'université, continuer mes études, découvrir un peu tout ce sentiment de liberté. J'ai commencé à être bénévole d'ailleurs dans une association LGBT qui n'est pas Shams parce que je suis arrivé à Toulouse. Et voilà, il y avait tout ce côté-là très bien. Il y avait un côté aussi un peu plus compliqué parce que, vu que j'étais habitué à quelque chose, le changement qui a été extrême, ça a été un peu difficile à gérer, donc j'ai dû passer quelques épreuves. Mais globalement, ça s'est super bien passé, voilà. Là, je suis en France depuis 5, 6 ans, 7 ans, comme ça, et j'aime bien. Donc je dirais bien, globalement, malgré des petites difficultés et tout, l'arrivée s'est bien passée.
Comment la sensation Shams vous a aidé ?
Alors, l'association Shams m'a aidé sur un plan, en fait, ça m'a aidé parce que j'ai commencé à rencontrer des gens comme moi, qui étaient LGBT, et puis aussi qui venaient du Maghreb. Comme je dis, moi je suis algérien, donc ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer des gens qui venaient de ma culture, et puis aussi des gens qui pouvaient rencontrer les mêmes problèmes que moi, c'est-à-dire par exemple comment être gay, musulman, sans se détester, ou comment on vit avec le fait de faire son coming out ou pas. Et j'ai plutôt vécu ça dans le soutien. Donc je me suis senti beaucoup soutenu avec de super beaux événements, avec de belles rencontres, plein d'amis. Et aussi, il y a cet aspect où au final, si je me retrouve à faire des ateliers de sensibilisation de l'LGBT-phobie, ça m'aide beaucoup en fait dans mon plan personnel parce que je me sens fier de moi. Et ça, c'est grâce à l'association Shams.
Moi, Shams, ça m'a aidé en l'aidant. En fait, moi j'ai remarqué qu'en étant LGBT et musulman, l'une des périodes les plus difficiles, c'est quand on fait son premier ramadan seul. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est pas que les LGBT, c'est n'importe qui, quand on fait son premier ramadan seul, qu'on est habitué à faire le ramadan en famille et qu'on est seul, que ce soit les travailleurs qui viennent du Maroc ou autres, les jeunes ingénieurs qui s'installent, qui se retrouvent seuls en France, alors qu'il n'y a pas l'ambiance, la même ambiance. Et en fait, moi c'était ça, et donc j'ai organisé pour Shams le premier repas de ramadan. Donc j'avais tout organisé, c'était pour leur faire gagner de l'argent. Donc j'avais un ami qui est restaurateur, un grand restaurateur, et tout ça, et je leur ai demandé des bénévoles. Et donc c'est en aidant mon prochain que je me suis aidé. C'est quand même je me suis rendu compte. Après c'est vrai qu'il y a un fond religieux où il faut toujours sadaqa et tout ça. Il faut toujours donner pour pouvoir recevoir. Il faut être dans le don et dans la générosité. Donc c'est en étant comme ça et que je pouvais l'être tout en étant LGBT que ça m'a permis d'aider Shams et que Shams m'a aidé.
Depuis que vous assumez publiquement votre orientation sexuelle, avez-vous constaté un changement chez vous ou dans votre rapport à la religion ?
Depuis que j'assume publiquement mon homosexualité, donc Ouais, je constate un changement chez moi assez positif, c'est-à-dire je me sens plus tranquille avec moi-même. J'ai pas peur, parce que faut savoir ça, avant, quand je me cachais en Algérie, j'avais tout le temps peur, en fait, qu'on sache qui je suis. Et c'était légitime, parce que j'avais peur qu'on me fasse du mal. Et en fait, la vie, c'était devenu, comme les Hunger Games, quoi. Genre, faut tout le temps se cacher, faut tout le temps se battre, faut faire en sorte de survivre, faut mentir par là, faut pas que les mensonges se croisent. Et du coup, depuis que je m'assume publiquement, là, je me sens tranquille. Donc, j'ai beaucoup moins de stress, je dors bien, je mange bien. Je suis plus tranquille. Le rapport à la religion, moi de base déjà la religion c'est pas trop mon truc. Enfin quand j'étais gamin, quand j'étais plus jeune, j'étais à fond, genre j'avais appris tout le Coran, des trucs comme ça, j'ai fait des concours coraniques, j'étais même passé à la télé d'ailleurs en Algérie pour donner l'exemple des choses comme ça. En fait même quand j'étais enfant je faisais pas ça par conviction, je faisais ça plutôt pour faire plaisir à mes parents. Et en grandissant, déjà avant mon homosexualité, je m'étais rendu compte de ça, que j'étais pas spécialement branché religion. Et je dirais que ma sexualité joue pas beaucoup sur ma religion. En fait, j'ai plein d'amis, par exemple, qui peuvent être musulmans, homosexuels, chrétiens, homosexuels. Moi, dans mon cas, je pense que je suis plutôt athée. Voilà, simplement. Donc ça change pas grand-chose.
Et moi, j'assume... Non, moi, je suis une position particulière. Je dirais pas que j'assume publiquement, ça veut dire que je vais pas l'afficher. Si tu me demandes, je te le dis. Si tu me demandes pas, je te dis rien et je vis ma vie. C'est plus dans un publiquement indifférent. Ça veut dire, voilà, si tu me le demandes, je te le dis, j'ai pas honte. Mais si tu me le demandes pas, je vais pas t'annoncer et c'est pas quelque chose qui nécessite une annonce publique, selon moi. Après, pour mon rapport à la religion, je me suis rendu compte qu'ensuite que ma famille et leurs traditions n'étaient pas la religion. J'ai su faire la distinction entre ce qui est tradition et religion, en revenant au texte religieux basique qui réunit tous les musulmans, et faire le distinguo entre ce comportement ou ces pensées-là ou ces idées-là ne sont pas du tout musulmanes, elles sont surtout traditionnelles. Mais quand j'ai fait ce distinguo, là, ça m'a permis de me ressentir un peu plus sur moi, sur le caractère universel de ma personne et de ma pratique religieuse.
Est-ce que vous vous êtes déjà mis en couple avec quelqu'un du même genre que vous? Est-ce que vous avez des enfants ou est-ce que vous en voulez?
Ouais, je me suis mis en couple avec quelqu'un, avec un homme du coup. Là, je suis en relation depuis 10 mois. Ça se passe super bien, c'est très cool. Et est-ce que je veux des enfants? Je sais pas. Peut-être, peut-être pas. Franchement, je suis pas fermé sur la question, mais j'ai pas encore une réponse fixe. Pour diverses raisons, un peu personnelles, parce que je me dis des enfants quand même, c'est une grande responsabilité. Et puis aussi, parce que je reste un peu jeune encore. J'ai 27 ans, donc je pense que j'ai un peu de temps.
Moi, étant plus âgé que mon collègue, oui, moi j'ai déjà été en couple, mais pas pour l'instant célibataire, mais... Ensuite, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous en voulez? J'ai déjà eu un couple de jeunes filles lesbiennes, pareil comme moi, pratiquantes, qui voulaient avoir un enfant. Ils voulaient que leur enfant soit, même si elles sont lesbiennes, elles voulaient que leur enfant soit musulman, qu'il soit. Moi, je suis d'origine tunisienne, elles voulaient qu'il soit aussi d'origine tunisienne comme moi. En gros, nos traditions, en gros, on est entre nous, on reste entre nous. Même si on est LGBT, ça reste ancré en nous et elles voulaient ça. Mais ça s'est pas fait parce que. Il y en avait une qui voulait faire des enfants pour la mauvaise raison, elle voulait faire un enfant pour avoir les papiers. Moi, je lui ai dit, moi, je fais pas d'enfants pour les papiers. Et c'est pour ça que ça s'est fini. Ou sinon, avoir des enfants, pourquoi pas.
Super. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. On espère que votre parole aidera à changer les mentalités, permettra aux personnes concernées de se sentir représentées et soutenues. On peut applaudir tout le monde.
On vous remercie. Merci beaucoup.